Les cours du Collège de France, Claude Grison, cher Avenir commun durable.
Bonjour à tous, merci de votre présence. Vous êtes là pour le premier séminaire de la chaire Avenir commun durable 2026. Donc c'est avec plaisir que je vais vous proposer ce premier cours qui concerne, comme vous le voyez sur le titre, une façon d'explorer le vivant à l'aide des différentes disciplines scientifiques qui montre finalement que la seule chose qui les différencie, eh bien, c'est une histoire d'échelle, d'échelle d'organisation du vivant. Alors, dans le contexte actuel de crise écologique majeure, eh bien, il me semble important de s'inspirer des principes du développement durable qui, à mon sens, constituent un fil conducteur qui est essentiel pour tous. Il repose sur une réflexion qui s'appuie sur le long terme et dans le respect du principe de précaution. Alors, comment s'inscrire dans cette démarche ? Eh bien, il s'agit de développer une réflexion qui est structurée par l'interdisciplinarité, avec trois objectifs. Tout d'abord, essayer de ne plus fragmenter les connaissances sur le vivant, les appréhender dans leur globalité, en favorisant la coopération entre les disciplines. Et puis, in fine, créer des liens entre connaissances scientifiques et réflexion éthique. C'est dans cette perspective, l'interdisciplinarité écologique, que je vais essayer de vous proposer en s'appuyant sur une compréhension donc multi-échelle. Voilà, c'est vraiment l'objet de ce séminaire. Alors, Pasteur allait jusqu'à dire « La science est une, et c'est l'homme seulement qui, en raison de la faiblesse de son intelligence, y établit des catégories. » Cette citation donc est assez parlante. Elle exprime tout d'abord un besoin d'humilité, mais c'est aussi une réflexion plus large qui suggère qu'il n'y a pas des sciences, mais une science. Et l'opposition constante entre les disciplines n'a pas vraiment de sens. Il n'y a pas la chimie d'un côté, l'écologie de l'autre. Toutes les connaissances apportées sont utiles, complémentaires et devraient d'ailleurs être en interaction. Pourquoi je vous propose de partager cette approche de la science à travers un exemple d'actualité, le gaz carbonique, le dioxyde de carbone atmosphérique. C'est une source de carbone pour tous les êtres vivants et les écosystèmes naturels jouent un rôle tampon sur sa concentration. On en parlera beaucoup aujourd'hui. Alors, c'est malheureusement aussi un gaz qui est trop émis par les activités humaines et qui, exacerbe l'effet de serre qui conduit au dérèglement climatique que l'on connaît. Alors malheureusement, les écosystèmes naturels ont quand même une capacité limitée et ils ne peuvent pas compenser indéfiniment les émissions atmosphériques, causant en partie donc ce dérèglement climatique que nous connaissons. Alors pour aborder bien ce sujet complexe et d'actualité, je vous propose de l'aborder sous différents angles, illustrant la richesse sociale et éthique. Et nous aurons le plaisir d'accueillir et d'écouter dans une heure le docteur Jérôme Chave, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences, qui se prêtera au même exercice, avec lui aussi donc une évolution totalement interdisciplinaire. Si on accepte de sortir des préjugés, des idées toutes faites, eh bien la seule vraie différence entre la chimie, la biochimie, la biologie et l'écologie, eh bien, c'est vraiment l'échelle d'organisation et d'étude du vivant. Puisque finalement, l'écologie étudie fortement le fonctionnement des écosystèmes, à une échelle une échelle de la communauté d'espèces. La biologie, vous voyez, à une échelle plus fine. La biochimie, plutôt à l'échelle macromoléculaire. Et puis finalement, la chimie à l'échelle moléculaire. Donc tout ceci est très important puisque la chimie, finalement, va permettre d'apporter des informations complémentaires à celles de l'écologie en étudiant plus en profondeur, peut-être, les mécanismes adaptatifs au stress qu'on lui impose. D'ailleurs, le changement d'échelle est tout aussi informatif et les chimistes ont tout intérêt à se nourrir des connaissances scientifiques de l'ensemble de ces disciplines. Ainsi, c'est vraiment la combinaison de ces connaissances qui permet de comprendre les écosystèmes dans leur globalité, puis développer ce qu'on appelle des solutions fondées sur les capacités d'adaptation remarquables de certaines espèces végétales, microbiennes, pour restaurer les écosystèmes aquatiques et dégradés, pollués par nos activités. Je terminerai par cet aspect. Et pour comprendre bien cette approche globale, j'y intégrerai non seulement des connaissances scientifiques, multi-échelles, mais aussi des notions de valorisation socio-économique et éthique, qui, vous allez le voir, peuvent être étroitement liées, et ce lien peut être profitable pour tous. Donc, nous allons beaucoup discuter de ce fameux dioxyde de carbone, cette petite molécule toute linéaire, mais avec une approche de science intégrée. Alors déjà, on le sait bien, le dioxyde de carbone, c'est évidemment la matière première d'alimentation des végétaux, des algues, des cyanobactéries, du plancton. Et leur activité photosynthétique, eh bien, sur laquelle nous reviendrons beaucoup, capture le carbone atmosphérique, donc le CO2, et produit les molécules organiques qui nourrissent le reste du vivant. Ces organismes vont libérer l'oxygène atmosphérique et sont finalement ce qu'on pourrait les appeler les producteurs primaires de la planète. Alors, on oublie parfois cet aspect positif du dioxyde de carbone parce qu'aujourd'hui, on est bien sûr beaucoup plus focalisé par son émission excessive à cause de nos activités et, comme je le rappelais tout à l'heure, donc, il contribue donc à renforcer de façon excessive donc l'effet de serre, qui au départ est une chose positive, qui permet que la planète fonctionne à une température vivable, mais qui aujourd'hui donc, est émis en trop grosse quantité, puisque pour la première fois, on a dépassé 420 ppm, ce qui est considérable. Et donc, ceci cause tous les dérèglements que nous connaissons, mais aussi ses conséquences, qui sont illustrées donc ici. Donc, les inondations de ces dernières semaines, mais pas seulement, bien sûr. Donc, les conséquences sont nombreuses, sécheresse, fonte des glaces, on y reviendra beaucoup la semaine prochaine et l'impact que ça a sur la rareté de l'eau douce ou la disparition de la faune, pour n'exposer quelques conséquences rapides. Pour situer un petit peu l'ampleur de ces 420 ppm donc de CO2 dégagé, il faut savoir qu'il y a 3 millions d'années, il y avait une concentration de dioxyde de carbone de 400 ppm. Et ça se traduisait par quel climat ? Il faisait tellement chaud que les arbres poussaient en Antarctique. Voilà, c'est pour situer cette valeur de 420 ppm. Donc c'est quelque chose qui est vraiment donc bien trop élevé. Alors pour approcher cette histoire d'échelle et de science unique, eh bien je vous invite à partager donc une image de la nature, une image très simple, nature et sa forêt, qui n'a rien à voir avec la luxuriance des forêts tropicales que Jérôme nous proposera tout à l'heure, mais qui rappelle peut-être un point essentiel. Bien, la forêt est verte, la nature est verte, et finalement la vie est verte. Alors vous pensez peut-être que mes propos sont un peu excessifs, qu'il y a le monde vert et le monde du non-vert, mais vous allez voir finalement, pas si simple que ça, et la vérité est très proche de cette vie verte. Si on veut comprendre cette relation vitale qui est entre la vie et donc cette couleur verte, bien, il convient de descendre à une échelle plus fine pour comprendre la forêt, l'arbre, la feuille, la cellule. C'est celle d'un pigment. Donc, j'ai représenté la structure ici, un pigment bien connu, la chlorophylle. La chlorophylle qui joue un rôle clé et qui explique cette vie verte. Selon une approche plus biologique, eh bien, ce polymère, la chlorophylle, est présent dans les chloroplastes que vous voyez ici. Chloro, en grec, signifie vert. On sait maintenant que ces chloroplastes sont en fait à l'origine des cyanobactéries, mais qui vivent là et entrées dans les cellules, dans un très très ancien ancêtre bien des arbres. Ces cyanobactéries sont restées et s'y sont multipliées. Elles se sont transmises lorsque les cellules de la plante se sont divisées en deux. Ainsi, elles sont passées d'une génération à l'autre. Mais en fait, ces chloroplastes donc, sont des cyanobactéries qui ont tout simplement changé de statut et qui sont devenues les composants essentiels au fonctionnement des cellules. La cellule de la plante, avec ses chloroplastes, va trouver donc, à l'intérieur de la cellule les ressources qui lui sont nécessaires, de l'eau, de l'azote, du phosphore ou du soufre, donc nutriments utiles pour elle. Et en échange, les chloroplastes vont assurer la photosynthèse dont les cellules végétales ont tant besoin. Alors, comment fonctionne la photosynthèse ? Alors, c'est typiquement la question des chimistes. En écologie, on a plutôt tendance à poser des questions du type « pourquoi ?». En chimie, on est très curieux, peut-être des fois de façon poussée à l'extrême, et on a envie de savoir d'où vient cette couleur verte, comment fonctionne la photosynthèse de façon la plus intime possible. Et finalement, comment les espèces photosynthétiques vont réussir à transformer le dioxyde de carbone en oxygène, et aussi, bien sûr, en glucose, vous le savez, on y reviendra, mais l'élément nutritif de base pour qu'une plante, par exemple, ait de l'énergie. Vous allez voir que finalement, c'est un sacré défi de comprendre ce phénomène. Il est assez subtil, assez complexe. Il y a encore plein de choses à élucider. Mais si on s'appuie sur la molécule de base, donc la chlorophylle, on peut voir tout d'abord que c'est une macromolécule qui dispose donc de 4 noyaux pyrroles qui complexent un atome de magnésium au centre. Donc il y a plusieurs types de chlorophylle, je n'en ai présenté que deux ici. Ce qui est intéressant, c'est de voir la conjugaison de l'ensemble de ces électrons pi, très mobiles ici, sur l'ensemble donc, de ces noyaux pyrroliques. Et quand on change de chlorophylle, par exemple la chlorophylle B, cette délocalisation électronique s'étend, va un petit peu plus loin, parce qu'il y a une différence. Ici, on a une fonction aldéhydique que n'a pas la chlorophylle A. Ce sont des petites différences qui paraissent rien du tout et pourtant qui auront des conséquences sur la capacité de ces chlorophylles à capter la lumière. Autre point commun, leurs fonctions acides carboxyliques sont estérifiées avec un ester de méthyl et un ester de phytyl, donc qui présentent des intérêts non négligeables dans la structure. Voilà, donc des différences subtiles, mais ce noyau commun est essentiel avec ces pyrroles complexés par le magnésium. Alors comment ces pigments chlorophylliens vont capter la lumière ? Que va-t-il se passer à cette échelle très fine de la chimie ? L'énergie des particules photons de la lumière en fait est très proche de l'énergie qu'il y a entre deux atomes. Donc c'est quand même à réfléchir, puisque finalement, quand la lumière est absorbée par ces cellules végétales et non par la chlorophylle, c'est quand même une grosse perturbation. Grosse perturbation, mais qui va quand même garder la cohésion de la structure moléculaire, donc de la structure chlorophyllienne. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir donc une forte délocalisation de ces électrons pi, des noyaux pyrroles que je vous présentais tout à l'heure. C'est juste ce qu'il faut pour les délocaliser suffisamment. Donc on peut voir ici que les grandes longueurs d'onde d'absorption de la chlorophylle sont dans le rouge, ce qui correspond à la plus petite énergie, donc la moins perturbante, la plus délicate, qui va interagir avec la chlorophylle, à la différence donc, de ces petites longueurs d'onde qui se traduisent par une plus forte énergie, donc qui sont un petit peu plus traumatisantes en fait, pour la molécule chlorophylle qui l'absorbe. Donc on voit quoi ? On voit finalement que ces chlorophylles donc absorbent en fait dans le bleu, donc on est proche de l'ultraviolet, et dans le rouge, mais pas dans le vert. Donc le vert donc n'étant pas absorbé, il est réfléchi, et c'est celui qui est renvoyé sous nos yeux, et qui explique donc cette couleur verte qu'on apprécie tant au niveau de la chlorophylle. Voilà, on voit quand même qu'il y a donc des petites différences entre les deux chlorophylles, souvenez-vous du groupe formyl qui est présent. Sur l'une d'entre elles, la chlorophylle B, qui lui permet finalement d'absorber un petit peu plus dans le bleu, alors que la chlorophylle A va absorber un peu plus dans le rouge. Donc finalement, la chlorophylle A est associée au ton vert foncé, alors que la B, ce sera plutôt des verts jaunâtres. Alors les plantes ont souvent plus de chlorophylle A que de B. C'est une bonne idée, puisque les trois quarts de la lumière, des teneurs en pigments sont en lien avec la densité de la chlorophylle A. C'est celle qui absorbe le mieux la lumière. On peut se dire, alors pourquoi font-elles de la chlorophylle B ? La chlorophylle B a plus d'intérêt quand les plantes sont soumises à une faible luminosité, parce qu'elle sera alors plus efficace pour capter cette lumière. Si on revient à une échelle un peu plus macroscopique, un bilan global, donc on revient un petit peu plus à l'échelle de la biologie, avant de produire des sucres et d'être capable de transformer le gaz carbonique, dans la photosynthèse, la première réaction qui est en amont et qui n'est pas simple du tout, c'est celle qui correspond à l'oxydation de l'eau en oxygène. une réaction difficile. D'ailleurs, quand on demande à un chimiste d'aller oxyder l'eau en oxygène, il réfléchit quand même un petit moment, pour dire comment il va y arriver, parce que ça n'est pas simple. Ça demande beaucoup d'énergie, c'est une réaction d'oxydation difficile. L'énergie, bien sûr, va être apportée par la lumière, c'est ce qu'on appelle de la photochimie, qui va être absorbée pour donc libérer ce dioxygène et ces quatre électrons, ces quatre protons qui vont voir jouer donc un rôle important. C'est à ce prix qu'on va pouvoir, donc, qu'une plante va pouvoir se nourrir. Alors, si ce bilan réactionnel est bien connu, eh bien, vous allez voir qu'elle pose vraiment toujours question au niveau du mécanisme. C'est extrêmement difficile de bien comprendre comment la plante arrive à faire cette réaction d'oxydation si délicate. D'ailleurs, beaucoup de chimistes étudient toujours. Il y a encore plusieurs hypothèses mécanistiques qui permettent de comprendre. Alors, c'est important de bien comprendre ces mécanismes. On en reverra l'importance d'essayer de les maîtriser. Ça apporte plein d'informations très utiles. Et bien, je vais vous proposer un des mécanismes qui est clairement admis, donc en diminuant progressivement d'échelle, comme je vous l'ai proposé. Alors, donc, c'est quand même, voilà, pourquoi c'est si important de comprendre comment une plante, finalement, arrive à oxyder l'eau, donc en oxygène. Eh bien, c'est tout simplement remonter peut-être à une époque où la Terre est passée d'un monde sans oxygène à la planète habitable que nous connaissons. Pourquoi ? L'oxygène, c'est une molécule qui est très réactive. On sait bien en chimie, c'est un biradical qui est capable de faire plein de transformations, donc extrêmement utile pour les organismes qui savent l'exploiter. Alors, on va bien voir que oui, la vie est bien verte, qu'on en dépend tous, puisque l'oxygène est essentiel à toute forme de vie, je le rappelle, même ce sont des choses qui sont quand même bien connues. L'ensemble du règne animal, que ce soit un poisson, un insecte, que ce soit nous-mêmes ou les végétaux, ont besoin, bien sûr, de cet oxygène, y compris les plantes, parfois on l'oublie, mais elles consomment évidemment de l'oxygène pour la respiration cellulaire. Alors, ce mécanisme qui a été trouvé par la nature pour produire donc l'oxygène par photosynthèse, donc a été finalement élaboré il y a 3 milliards d'années, et la nature ne l'a jamais quitté. Ainsi, pour apporter des éléments de réponse et mieux comprendre comment ça se passe et en tirer profit, eh bien, des chercheurs ont choisi de s'intéresser aux premiers organismes qui ont été capables d'avoir une activité photosynthétique, ce sont les cyanobactéries que je présentais tout à l'heure. Alors, ces chercheurs ont extrait ce qu'on appelle le complexe protéique qui est responsable de l'oxydation de l'eau, le photosystème 2, et puis ils ont essayé de comprendre le plus finement possible donc son comportement. Alors, ils ont découvert que finalement, ce mécanisme d'oxydation procédait en plusieurs étapes qu'on n'avait jamais observées avant. Donc, dans le centre du complexe d'oxydation de l'eau, eh bien, au centre donc, du photosystème 2, on observe ce qu'on appelle un cluster bimétallique, plus chimiquement, plus précisément, un oxyde mixte de calcium et de manganèse. Et c'est surprenant parce que le manganèse se trouve sous deux états d'oxydation, donc 3 et 4, dont le pouvoir d'oxydation est quand même relativement moyen, bien faible pour être capable d'oxyder de l'eau en oxygène. Donc ça peut paraître surprenant. Mais ce qu'on va voir, c'est que la présence du calcium, eh bien, va tout changer. Elle va perturber le réseau cristallin des oxydes de manganèse, elle va booster le pouvoir oxydant du manganèse. Alors on va essayer d'approcher un petit peu la subtilité de cette affaire. Pour oxyder l'eau, le mécanisme décrit que le procédé procède par une série d'états intermédiaires qui sont notés ici, S0, S1, S2, S3, S4. Et donc, à chaque fois, vous le voyez, il y aura fixation d'une molécule d'eau et libération d'un électron et d'un proton sur la plupart de ces états de transition. Et l'ensemble de ces procédés très chimiques vont être régulés par une protéine fonctionnelle. C'est ce fameux complexe d'oxydation de l'eau. Alors, comment ça se passe? Comment intervient cet oxyde mixte manganèse-calcium? Je creuse encore un petit peu le mécanisme. Et je m'excuse par ailleurs si la chimie ne vous plaît pas trop, mais rassurez-vous, j'en ferai pas de façon excessive. Mais c'est quand même vraiment intéressant de le comprendre finement. Donc souvenez-vous, c'est un oxyde mixte un petit peu compliqué, un mélange de manganèse 3 et 4. Et parmi les mécanismes admis, celui où l'état de transition demande le plus d'énergie et où le plus de choses se passent, c'est celui-ci. Donc il demande une énergie de 0,4 électronvolts, ce qui est quand même important. Et on voit quelque chose de surprenant. On voit le manganèse 4 ici qui va être oxydé en manganèse 5. Alors comment est-ce possible? Eh bien grâce à la protéine, il y a notamment un résidu aspartate qui va capter un proton et qui va permettre le transfert d'un oxygène sur celui-ci. Très surprenant en chimie, ça n'arrive pas souvent. Pourquoi? Cet oxygène est dans une configuration très particulière. Il est associé au calcium et à ses deux atomes de manganèse qui le rend oxophile et qui lui permet d'être attaqué par un autre atome d'oxygène. Alors le manganèse a été oxydé au degré 5, mais surtout, vous venez de voir là, cette réaction, cette attaque sur cet oxygène oxophile vient enfin de créer le lien oxygène-oxygène du futur dioxygène. Donc une étape essentielle vient d'être obtenue. Donc ce mécanisme très subtil, eh bien en fait, est inspirant. Mais vraiment, vous allez voir à quoi ça conduit et à quoi servent toutes ces connaissances. Eh bien, tout d'abord, avoir une meilleure compréhension du déroulement de ces réactions chimiques, c'est évidemment important parce que ça permet aux scientifiques d'avoir une meilleure vision eh bien, des mécanismes tout simplement qui alimentent la vie, première chose. Et on y trouve aussi, vous allez le voir, une inspiration assez extraordinaire pour développer de nouvelles technologies dont vous entendez certainement beaucoup parler, qui sont plus respectueuses de la nature et en plus qui vont apporter une autre dimension. C'est être capable, peut-être, si elles aboutissent jusqu'à leur terme, de capter ces CO2 excédentaires qu'on produit en ce moment. Alors surtout aussi, bien sûr, de remplacer la pétrochimie, donc quelques exemples. Tout d'abord, produire de l'hydrogène vert. C'est quelque chose qui est possible, mais qui est important à modifier. Pourquoi ? Bien, l'hydrogène conventionnel, qui s'appuie sur la pétrochimie, a quand même un bilan en CO2 qui porte à réflexion. Vous voyez quelques données ici. Donc, pour produire 1 kg d'hydrogène par pétrochimie, si on utilise le gaz naturel comme matière première, on va libérer 10 kg de CO2. Ce n'est pas très brillant en termes de bilan. Si on part des résidus pétroliers, c'est 15 kg de CO2 libérés. Donc par kilo d'hydrogène. Et si on part du charbon, c'est 20 kg de CO2. Donc évidemment, c'est un vrai souci. Mais si on regarde un peu plus près le bilan de production actuelle de l'hydrogène vert, et si on se réfère à un des meilleurs procédés actuels, que vous voyez ici, eh bien, il va consommer, cette fois-ci, du CO2 et 40 kg. Donc on voit la motivation qu'il y a derrière ces recherches. Donc on peut consommer du CO2 pour remplacer un procédé par un autre dont l'empreinte environnementale n'a rien à voir. En termes de bilan CO2, ça se voit tout de suite. Donc ces recherches sont évidemment extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, malheureusement, elles ont de grosses limites. Elles consomment énormément d'énergie électrique. Donc il y a encore des progrès à faire, mais le bilan CO2 est extrêmement motivant. Autre sujet de recherche, et d'ailleurs souvent présenté au Collège de France, puisque un collègue que vous avez peut-être entendu, Marc Foncave, développe des activités sur ce sujet, c'est travailler sur le CO2, le capter, mais le réduire, notamment par électrolyse. Pour en faire quoi ? Le réduire pour produire toutes les petites molécules carbonées qui sont traditionnellement issues de la pétrochimie. Donc un exemple qui est assez avancé, c'est être capable de faire l'électroréduction du CO2 en méthanol, carburant, très utilisé. Bon, là encore, si les résultats sont intéressants, prometteurs, il y a encore des progrès à faire sur les coûts énergétiques associés à ces technologies. D'autres développements qui déroulent de ces connaissances approfondies du mécanisme de la photosynthèse méritent donc d'être signalés. Donc le premier que je trouve très joli, que je voulais vous partager, on n'en a pas encore entendu beaucoup parler parce qu'il est vraiment à ses débuts, mais vraiment passionnant. C'est le dialogue qu'on arrive finalement à avoir avec les plantes et avec leur activité photosynthétique. Et je fais référence ici aux très jolis travaux de Ludovic Julien, je trouve vraiment très élégant, puisqu'en fait il utilise donc la lumière, il va soumettre des plantes qui sont donc à l'abri de la lumière, il va les soumettre à une lumière dont il va moduler dans le temps l'intensité. Et puis, donc, il les illumine donc dans la nuit. Et puis, il étudie la réponse de la plante, qui est une réponse en termes de fluorescence, donc de lumière réémise, une lumière rouge intense. Et ça lui donne des informations, traitant ce signal de fluorescence, des informations extrêmement intéressantes, un message très informatif qui va lui permettre de voir si une plante a soif, si elle manque de fer, si elle souffre d'une attaque d'herbivorie, par exemple. Donc des informations extrêmement subtiles, donc très informatives sur l'état physiologique des plantes. Donc très joli travail qui s'appuie sur ces connaissances pointues et mécanistiques de la photosynthèse. Et ce que je vais plus donc vous développer, qui est un petit peu plus proche de mes propres activités, c'est de savoir quelles leçons on peut tirer de la formation de ce fameux cluster bimétallique que je présentais tout à l'heure, donc cet oxyde mixte calcium-manganèse, à quoi ça sert de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en faire donc de profitable pour réduire l'empreinte environnementale de l'activité industrielle, et là en l'occurrence bien dans le domaine de la chimie. Alors pour moi, c'est une merveilleuse leçon de la nature vis-à-vis des mécanismes d'oxydation. Vous avez vu cette oxydation de l'eau en oxygène, même si elle est complexe, elle est quand même très élégante et elle part de manganèse à faible degré d'oxydation qui n'a absolument qu'une toxicité. C'est bien différent des réactifs oxydants conventionnels de la chimie qui ont été déployés pendant des années, qui sont d'ailleurs pour la plupart en défaut. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dangereux, mais surtout ils sont toxiques et écotoxiques. Alors en Europe, je le rappelle au passage, et c'est vraiment l'occasion par les temps qui courent de le rappeler, on a quelque chose d'assez merveilleux qui s'appelle la réglementation européenne de la chimie REACH. C'est un outil très puissant qui a été donc créé il y a une vingtaine d'années, qui avait comme souci de repérer et d'augmenter chaque année la liste des produits problématiques pour les réglementer et susciter de l'innovation pour les remplacer. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, la réglementation REACH est ressentie non plus comme une chance pour innover et réduire notre empreinte environnementale, mais qu'une contrainte réglementaire et donc est quand même mise en difficulté. C'est bien dommage parce que c'est vraiment une richesse de l'Union européenne qui avait pris conscience de l'impact de certains produits chimiques qui stimulaient la recherche alternative. Peu importe si cette réglementation faiblit en ce moment, c'est extrêmement motivant pour un chercheur pour se concentrer sur les alternatives et les trouver. Et bien clairement, pour remplacer ces oxydants conventionnels donc réglementés, nous avons choisi de nous inspirer de la nature et de cette fameuse photosynthèse. Et pour ça, pour le comprendre, je vous invite à voyager un tout petit peu, quelques instants, dans le Pacifique Sud, donc en Nouvelle-Calédonie. C'est donc un territoire qui est magnifique, qui est un point chaud de la biodiversité mondiale, avec un archipel qui a une variété de paysages et une diversité végétale absolument extraordinaire. Vous en voyez quelques photos de sa forêt, de sa mangrove, et vous n'avez même, je ne vous ai pas présenté ici de photos de son lagon, qui est considéré comme un des plus beaux du monde, qui est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le taux d'endémisme des espèces en Nouvelle-Calédonie est très élevé, on parle de plus de 76%, donc d'espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et une des raisons particulières qui explique donc cet endémisme, c'est ce qu'on appelle les conditions édaphiques de Nouvelle-Calédonie, du territoire, la composition du sol, qui s'explique en très grande partie par l'histoire géologique de la Nouvelle-Calédonie, qui introduit des teneurs en métaux élevés dans le sol, et le plus connu d'entre eux, c'est le nickel. Alors, ce n'est pas simple de vivre en présence de nickel, parce que le nickel, on sait, est toxique. Il est classé CMR, cancérigène, mutagène, réprotoxique. Toxique pour nous. Oui, il est toxique aussi pour les plantes. Donc, c'est un vrai souci pour le milieu végétal de survivre avec des teneurs en nickel très élevées. Eh bien, certaines plantes, et vous en voyez une ici, cet arbre magnifique, a trouvé une solution pour tolérer survivre sur ces terres riches en nickel, c'est de l'extraire par son système racinaire. Il y a un scénario qui est vraiment très joli quand on l'étudie à l'échelle fine de la molécule, et puis le transporter de façon extrêmement sélective et d'aller le stocker dans ses parties aériennes, comme pour mieux s'en protéger. Il le met à l'abri, là aussi, par un scénario qu'on comprend très bien en chimie, très joli, très efficace, et il le stocke. Voilà comment un certain nombre d'espèces végétales ont réussi donc à survivre sur ce territoire. Donc il y a plus de 60 espèces différentes qui développent ce mécanisme. Il n'y a que Cuba qui fait mieux. Mais en Nouvelle-Calédonie, on a d'autres espèces qui ont choisi un autre scénario, c'est hyperaccumuler le manganèse, qui est aussi en quantité excédentaire. Ça, c'est unique. Plus de 10 espèces végétales capables de l'hyperaccumuler, de le stocker aussi dans ses parties aériennes. Donc tout ceci est très joli, mais qui dit nickel ne dit pas que biodiversité exceptionnelle, ça dit aussi bien sûr extraction de ce minerai. Je crois qu'il faut l'assumer puisqu'on l'utilise au quotidien. Deux petits exemples rapides qui montrent que donc on est consommateur de ce nickel. Bien, c'est tout d'abord les revêtements en inox, qu'on appelle couramment acier inoxydable, dans lequel il y a beaucoup de nickel, mais aussi de chrome, qui est un autre sujet. Mais voilà, on en consomme abondamment. Et puis aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de batteries de nos véhicules électriques qui en consomment aussi. Voilà, alors c'est quand même un souci. Pourquoi ? Parce que donc, ce nickel, en Nouvelle-Calédonie, est exploité à ciel ouvert. Donc ceci est quand même plein de conséquences. Alors les conséquences, lesquelles sont-elles ? Eh bien, en fait, le plus gros impact, très certainement, c'est qu'après extraction donc, de ce minerai, hein, dans ces mines qui sont à ciel ouvert, si on n'intervient pas, la végétation ne reprend jamais. Le sol est trop dégradé pour ça. Et on est en milieu tropical, hein, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en saison humide, eh bien, on est confronté à des orages tropicaux extrêmement violents, voire à des cyclones, hein, qui arrivent fréquemment, qui vont lessiver ces sols où il n'y a plus aucune végétation pour retenir les sédiments du sol, et donc qui vont être entraînés dans les milieux aquatiques, qui vont être à leur tour pollués, et se retrouver dans ce fameux lagon calédonien, qui donc souffre déjà du réchauffement climatique, mais qui souffre aussi donc de ces milieux aquatiques qui se déversent avec ces sédiments miniers. Autre problème qu'on oublie parfois, eh bien, c'est que le minerai de Nouvelle-Calédonie est considéré comme un des meilleurs du monde. Hein, c'est quatrième producteur de nickel, même s'il est en difficulté en ce moment. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un minerai qui est riche entre 1 à 1,5% de nickel. Bon, on est plus proche du 1% que du 1,5% aujourd'hui, parce qu'on l'a surexploité. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que d'entrée, quand on accepte d'exploiter ce minerai, hein, pour notre bien quotidien, eh bien, on va générer 99% de déchets. Donc, vous voyez un petit exemple ici en photo. L'utilité de ces déchets reste à trouver. On n'a toujours pas trouvé ce qu'on pouvait en faire. Donc voilà, ça permet aussi de réfléchir à la surconsommation qu'on peut faire de ces éléments métalliques. Alors, quoi faire par rapport à ces problèmes d'érosion des sols, de dégradation de ces sols tels que la végétation n'arrive jamais à reprendre ? Ceci nous a interpellés il y a une quinzaine d'années. Et on a essayé de développer ce qu'on appelle le concept de la restauration écologique. Ce n'est pas un terme pris au hasard, hein, c'est très cadré dans le milieu scientifique. L'idée, le concept consiste à essayer de recréer l'écosystème qu'il y avait avant l'activité humaine. Bon, c'est un vrai défi, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Ben, je vais vous partager un retour d'expérience sur un exemple concret, 10 ans après ces opérations. Alors, quelles sont-elles ? Bah, tout d'abord, on va essayer d'installer des espèces endémiques, bien sûr, uniquement de Nouvelle-Calédonie. Mais plus que ça, sur chaque site où on est intervenu, qui sont représentés par ces flèches, on a essayé de respecter l'endémisme local du site qu'on essaie donc de restaurer. Donc ceci est bien sûr un défi, mais c'est une expérience unique et qui, vous allez voir, est encourageante et qui nécessite des travaux de recherche dans la durée. Parce qu'il faut faire un suivi écologique sur le long terme, voire le très long terme, pour en tirer des informations et être de plus en plus donc habile dans ces programmes de restauration écologique. Alors pour vous convaincre que ça n'est pas facile, les contraintes ne manquent pas. Tout d'abord l'altitude, puisque la plupart des sites miniers sont en altitude, ce qui est une première contrainte pour des espèces végétales qu'un grand nombre ne supporte pas. Le climat, j'ai évoqué tout à l'heure, avec ces saisons humides qui se traduisent par des épisodes pluvieux extrêmement violents qui emportent n'importe quel jeune plant. Et puis, 6 mois de saison sèche derrière, où il ne tombe plus une seule goutte d'eau, en particulier de plus en plus en province nord, qui est un vrai souci aujourd'hui. Mais le pire, c'est quand bien la composition du sol. Bon, il y a tout ce qu'il ne faut pas, hein, l'eau de métaux toxiques redoutables pour une plante, nickel, manganèse, fer, chrome, cobalt. Et malheureusement, vu la dégradation des sols, un défaut des nutriments utiles pour la croissance d'une espèce végétale. Donc très peu de phosphore, de calcium, de potassium ou de sodium. Donc pour atteindre l'objectif, eh bien, on planifie les opérations. On commence par mettre des espèces pionnières, grégaires. Ce sont ces espèces qui font la phytoextraction, qui accumulent les éléments métalliques comme le nickel, cet arbre que je vous présentais tout à l'heure. Ça n'est pas un objectif en soi. L'objectif n'est absolument pas de faire la monoculture avec ces espèces. C'est simplement d'initier la restauration écologique avec des espèces qui vont être capables de résister. mais en prenant en compte leurs spécificités. Et vous allez voir, ce n'est pas simple, chacune a une adaptation particulière à ces milieux et nécessite bien de comprendre ces particularités pour les aider à se développer avec toutes ces contraintes. Dans une deuxième étape, on installe des légumineuses qui vont tolérer ces conditions extrêmes de dégradation, mais qui vont réenrichir les sols naturellement en azote. Pourquoi ? Parce que l'objectif ultime, c'est bien d'augmenter la biodiversité sur ces sites qu'on essaie de restaurer, puisque vous le savez, on a en tête essayer de tendre vers l'écosystème initial. Donc tout ceci nécessite un suivi écologique qui est assez long, comme je vous le disais, d'une dizaine d'années, avec donc des paramètres que je vais vous présenter, que je vais vous partager. Un long travail, donc assez fastidieux, de terrain, pour en tirer un maximum d'informations. Alors l'exemple que je vais vous partager, c'est l'exemple d'une mine, qui s'appelle la mine de Méa, à côté d'un village, Kwawa, qui est très connu pour cette activité minière. C'est un haut lieu de l'activité minière en Nouvelle-Calédonie. Et on a essayé d'expérimenter la restauration écologique sur des vers astériles qui représentent 3 hectares. Pour des chercheurs, c'est un effort qui est quand même non négligeable. Donc ces opérations ont été réalisées avec le support logistique d'un opérateur minier français, je le signale quand même, sinon ça serait impossible. Et donc je vais vous partager ce retour d'expérience après 10 ans de ce suivi écologique. À chaque fois, sur chaque site qu'on essaie de restaurer, on essaie de répondre à une question scientifique spécifique. Ici, la question initiale, c'était: est-ce que nos espèces fixatrices d'azote, dont ces légumineuses, vont avoir un rôle positif sur le développement des espèces hyperaccumulatrices d'éléments métalliques, ces espèces pionnières? Est-ce que ça va les aider? C'était la question à laquelle on voulait répondre. Donc on a travaillé sur deux verses astériles, où l'exploitation venait juste d'être arrêtée avant de passer à la verse suivante, et on est intervenu très tôt. Donc vous voyez ici en photo aérienne, et donc on a essayé de réfléchir à une planification de l'installation de ces espèces hyperaccumulatrices de nickel, de manganèse, et des espèces fixatrices d'azote avec deux légumineuses notamment. Donc une planification des travaux pour réaliser des études statistiques et en tirer des informations sûres sur les relations entre ces espèces et sur le développement sur le long terme de ce premier protocole. C'est un travail fastidieux, donc c'est un travail de préparation de ces plants en pépinière pendant 18 mois, qui doivent atteindre une certaine maturité et qu'on prépare tout doucement au choc et au stress qu'elles vont subir quand on va les installer sur le site. Donc, les paramètres qui sont mesurés, pour vous les partager, donc la mortalité, c'est quelque chose bien sûr qui fait peur sur ces conditions extrêmes de dégradation, un certain nombre de paramètres de croissance, hauteur, diamètre, nombre d'axes, volume, et bien sûr on observe la diversité végétale sur le site. On part de zéro, souvenez-vous, on a 3 hectares de tas de cailloux et beaucoup de métaux, et on essaie de voir si ce qui a été installé va favoriser l'apparition d'une diversité végétale au cours des années. Donc c'est quelque chose qui est étudié de près. Tout d'abord en termes de mortalité. Au bout d'un an, on voit que les taux de mortalité des espèces hyperaccumulatrices sont relativement faibles, entre 10 et 17%. On s'attendait à beaucoup plus. On s'appuie en référence sur de la restauration de forêts tropicales dégradées dont les chiffres sont supérieurs. Donc ça a été déjà une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on n'a pas été trop maladroit pour installer ces espèces, et finalement elles résistent relativement bien à ces conditions extrêmes. Ceci se traduit au fil des années, et à 10 ans, on conserve ces statistiques favorables, donc un taux de mortalité qui va entre 26 et 36%, alors que c'est très supérieur sur les efforts de restauration de ces forêts tropicales dégradées à titre témoin. Après, on avait, souvenez-vous, une question initiale. Est-ce que nos espèces fixatrices d'azote, nos légumineuses, vont favoriser le développement des espèces hyperaccumulatrices? On pouvait l'imaginer, puisqu'il y a très peu d'azote dans ces sols et elles étaient là pour en réintroduire. Au bout de 10 ans, on peut voir que sur la mortalité, il n'y a pas d'effet significatif. Elles n'ont pas réduit la mortalité des espèces hyperaccumulatrices. On va aller un petit peu plus loin. Et pour que ce soit pas trop long et trop pénible pour vous, j'ai choisi de vous partager les résultats de celle qu'on qualifie notre star. On finit par sympathiser avec ces plantes, les aimer beaucoup. Et il y en a une qui retient toute notre attention. On la qualifie notre star, c'est Grevillea rubiginosa. Donc souvenez-vous, hein, on l'a introduite toute petite, 15 cm, on a suivi sa croissance et aujourd'hui, eh bien, on peut voir donc son développement. Vous voyez notre agent donc, sur le terrain, qui est assez grand, hein, il fait 1,90 m. Donc vous imaginez, là on est maintenant, on a des arbres de belle amplitude et je vais vous partager un petit peu quelques données sur le développement de ces espèces, de cette espèce particulière qu'on a beaucoup appréciée. Tout d'abord, donc, nous avons vu ces boutons apparaître. Aujourd'hui, elle est en forte floraison, en fructification. Hein, 47 plants sont en fructification, avec plein de ramifications. Donc ça se traduit par un volume énorme. Plein de nouveaux plants qui apparaissent spontanément, 58. Donc elle arrive à germer sur ces litières, on y reviendra beaucoup, ces litières que vous voyez ici, ces feuilles qui viennent d'un accumulateur de manganèse, qui sont très chargées en manganèse. Ça ne nuit pas à la germination en fait, des jeunes plants, donc, qui sont en croissance, il y en a donc 58. Bon, maintenant, d'un point de vue un peu plus numérique, ça se traduit par quoi ? Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est que cette espèce, Crevula rubiginosa, vous avez vu, qui était très haute, qui dépassait 2 mètres sur la photo que je vous ai montrée, a atteint, en fait, une croissance qui est digne des plants sauvages. Et ça, c'est toujours un repère. Donc, ça veut dire qu'elle est en pleine santé, en pleine dynamisme, en plein dynamisme sur ses sols. Elle arrive à se développer. Et d'un point de vue très concret, en 10 ans, finalement, sa taille a été multipliée par 6, en moyenne, son diamètre par 8, son volume par 130, qui est le reflet de ses nombreuses ramifications. Et toutes ses performances sont 2 à 5 fois supérieures aux autres espèces pionnières installées. Est-ce que ces légumineuses qu'on avait installées ont favorisé son développement ? Alors non, même au contraire pour l'une d'entre elles, qui est ici, une espèce fixatrice d'azote qui a nuit de façon significative à sa croissance. Vous voyez, les idées, les préjugés qu'on peut avoir au départ sont vite remis en cause par ces opérations sur le long terme. Donc on en tire des leçons très claires sur les maladresses qu'on peut parfois donc avoir quand on se fie à des concepts généraux. Il faut vraiment étudier au cas par cas donc ces programmes de restauration écologique. Donc tout à l'heure, je vous montrais en photo la densité en fait des litières de cet arbre qui libère des quantités donc de feuilles très importantes et c'est un accumulateur de manganèse. Donc on a étudié toutes les litières du site et on a mesuré la quantité de manganèse qu'il y avait dans ces litières, ces feuilles mortes. Pourquoi ? Parce qu'on a suivi l'accumulation du manganèse dans ces arbres en pleine croissance et on a vu que c'est vraiment les feuilles âgées, surtout les litières, qui étaient les plus riches en manganèse. Et oui, on atteint en moyenne 4000 ppm de manganèse dans ces feuilles, c'est-à-dire 4 mg par gramme de feuilles sèches, ce qui est considérable. Et ceci suggère quoi ? Eh bien, une valorisation possible. Souvenez-vous, le manganèse avec ses capacités oxydantes, donc qui sont largement mises en évidence dans la photosynthèse. Alors avant de voir un petit peu ces problèmes de valorisation, eh bien je vous partage aussi donc les bonnes nouvelles. C'est au-delà de la bonne santé de Crevula rubiginosa, eh bien c'est qu'aujourd'hui, plus de 55% des espèces présentes sur ces vers astériles en cours de restauration concernent des espèces végétales que nous n'avons pas installées, qui se sont installées spontanément. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que 75% d'entre elles figurent sur l'inventaire botanique initial avant exploitation minière. 96% sont endémiques, 14% sont indigènes, aucune plante exotique envahissante n'est répertoriée. Donc, ça veut dire qu'on tend progressivement vers la reconstruction de l'écosystème initial, voilà, de façon assez structurée. Donc c'est vraiment très intéressant et ceci est confirmé par la mesure d'indices de diversité végétale du domaine donc qui sont très prometteurs. Vous en voyez quelques photos ici avec des espèces dont l'apparition fait plaisir. Vous en voyez une ici parce qu'elle est qualifiée de vulnérable par l'UICN. Donc d'autres sont une orchidée, il y a plusieurs orchidées qui se développent. Donc c'est très informatif aussi, puisqu'elles sont fortement mycorhizées, ça porte plein de renseignements sur l'état du sol. C'est une orchidée endémique qui est très appréciée localement, puisqu'elle a des propriétés donc médicinales recherchées. On a beaucoup parmi elles, qui sont dans cette situation. Donc celle-ci est utilisée pour faire des teintures végétales. D'autres ont attiré notre attention car elles ont une composition donc minérale inhabituelle. Il y en a une ici qui a un excès de potassium, qui est révélateur donc de sa physiologie spécifique. Donc plein d'informations et une diversité d'espèces donc qui se développe, donc qui est extrêmement motivante. Le problème de ces programmes, vous l'avez vu, c'est que ça dure longtemps. Et si on veut les étendre, les généraliser, il faut absolument leur trouver une valorisation économique. Pourquoi ? Aucune entreprise ne peut vivre en développant ses programmes de restauration écologique. En fait, ça se traduit par des coûts et par aucun revenu. Et qui a les moyens aujourd'hui de financer ces programmes ? C'est une vraie question et les réponses ne sont pas simples à trouver. Donc, l'idée, c'était de s'appuyer sur d'ailleurs le concept européen des solutions fondées sur la nature, être capable de concilier un bénéfice écologique, environnemental, rendre un service à la biodiversité, mais apporter aussi un bénéfice économique en cohérence avec les solutions écologiques. Donc il faut que ce bénéfice économique n'apporte pas d'empreinte environnementale, sinon ça n'a aucun sens. Lequel était possible ? Eh bien, c'est largement inspiré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la photosynthèse. Pourquoi ? On a beaucoup étudié cette espèce, les espèces du genre Grevillea que je vous ai présenté tout à l'heure, en faisant des efforts qui ne sont pas toujours simples, mais je pense que Jérôme connaît le problème, travailler en pleine brousse et utiliser des moyens techniques qui sont présents bien à Paris, par exemple le synchrotron soleil. Donc c'est en termes de logistique un petit défi. Donc pour rapatrier dans les meilleures conditions possibles ces échantillons de plantes et les étudier le plus finement possible pour comprendre et progresser dans leur physiologie très particulière. Ceci nous a appris quelque chose de très intéressant à travers un hyperaccumulateur de manganèse, Grevillea Meissneri. C'est qu'il arrive à faire une co-assimilation du manganèse et du calcium dès son système racinaire. Et ceci se traduit par une colocalisation de ces deux éléments, manganèse-calcium, dans tous les organes de l'arbre, y compris dans les feuilles que vous voyez ici. Ceci nous a interpellés, vous vous souvenez, calcium-manganèse, c'est ce que fait la photosynthèse. Ainsi, quand on transforme directement ces vieilles feuilles bourrées de manganèse par un procédé très sobre, très direct, qui consiste à concentrer la matière minérale, eh bien on génère très clairement un oxyde mixte de manganèse et de calcium, qui est un très bon mime du cluster de la photosynthèse. Donc ça nous a évidemment interpellés, et la question immédiate c'est, est-ce qu'il aurait les mêmes capacités oxydantes que le cluster de la photosynthèse ? Est-ce qu'il ne pourrait pas remplacer les oxydants de la chimie qui sont mis en défaut par la réglementation REACH ? C'était vraiment l'idée initiale. Donc c'est quelque chose qui a été travaillé. Donc, est-ce que voilà, cet éco-manganèse, cet éco-catalyseur issu de ces feuilles, donc allait se comporter comme celui de la photosynthèse ? La réponse est oui, ça nous a permis de revisiter toutes les grandes réactions d'oxydation de la chimie, de vous en partager plusieurs. La première, c'est une réaction dite d'époxydation. C'est l'exemple typique où les oxydants qui sont classiquement utilisés posent un problème réglementaire au nom de REACH pour des raisons de dangerosité, de toxicité. C'est typiquement un bel exemple. Eh bien, on peut voir que les feuilles issues donc de Grevillea rubiginosa génèrent ce qu'on appelle nous un éco-catalyseur, un mélange de manganèse et de calcium qui peut être mis en œuvre dans des conditions parfaitement éco-responsables, donc tout à fait inoffensives, pour réaliser cette réaction d'époxydation. Donc ça a été passionnant parce qu'on a montré qu'on pouvait utiliser 200 fois moins d'agents oxydants que les réactions d'oxydation conventionnelles. Belle leçon de la nature qui est très inspirante et à chaque fois quand on cherche une solution pour s'affranchir des erreurs du passé, la nature est un très bon guide, croyez-moi, c'est quelque chose qui se reproduit sans arrêt. Cette réaction était donc très efficace et on a choisi d'essayer d'explorer un domaine le plus utile possible, vous allez voir lequel, s'intéresser à cette réaction, mais sur des molécules naturelles, des terpènes. Le pinène, par exemple, très abondant dans le pain, ou le limonène, très abondant dans les agrumes. Est-ce qu'on arrive à les époxyder ? C'est un petit défi. Époxyder le pinène, c'est très dur, parce que l'époxyde est fragile, il se décompose tout de suite. Le limonène, c'est un autre défi, il faut faire une double époxydation. La plupart des agents époxydants ont du mal et s'arrêtent à la première époxydation. On a montré que c'était possible. Les conditions sont suffisamment douces pour respecter la fragilité de ces molécules. Et pourquoi s'acharner sur l'époxydation de ces deux composés? Eh bien, ces deux époxydes, en fait, s'imposent aujourd'hui comme des alternatives à deux molécules dont la toxicité suggère de les oublier au plus vite, le bisphénol A et l'épichlorhydrine. On peut les remplacer avec ces époxydes. Et pourquoi est-ce important de les remplacer? Eh bien, ça permet de synthétiser les monomères de nos polymères plastiques biodégradables dont on a tant besoin aujourd'hui. Donc, tout ceci est évidemment passionnant et nous a incité à continuer et à mieux comprendre les catalyseurs qu'on avait donc entre les mains et en générer de nouveaux. En activant nos oxydes mixtes de calcium et de manganèse, on a montré qu'on pouvait générer des espèces chimiques qui sont complètement inconnues, qui résultent d'un auto-assemblage du manganèse de la plante avec tous ses éléments minéraux physiologiques. Elle a du potassium, elle a un petit peu de magnésium. Eh bien, c'est un arrangement de ces éléments qui ont généré des architectures moléculaires complètement nouvelles qui étaient inconnues. Donc ça a été une belle surprise. Bien sûr, on est retourné au synchrotron Soleil pour essayer de bien les caractériser. On a fait plein de calculs théoriques pour essayer de voir mais quel était l'intérêt de ces nouveaux sels par rapport à ce qu'on connaît en chimie. Ce qu'on connaît en chimie, c'est MnCl2. Nous, on a des espèces beaucoup plus complexes, beaucoup plus élaborées. Alors, on a fait plein de calculs pour les comparer à ce MnCl2. Et on en a déduit deux choses. C'est que le manganèse n'avait pas du tout la réactivité des espèces classiques du manganèse, et que l'association avec ces espèces minérales rendait l'espèce beaucoup moins sensible à l'action des solvants, qui est toujours un problème en chimie, parce que le solvant va désactiver donc un réactif ou un catalyseur. Là, ces espèces sont protégées de ces effets de solvatation. Bon, ça a été très excitant, et ça nous a permis de revisiter toutes les réactions d'oxydation donc de la chimie. Lesquelles ? Je vous ai parlé de l'époxydation. Eh bien, s'il y a des chimistes dans la salle, vous reconnaîtrez l'intérêt de ces réactions, ce qu'on appelle la coupure oxydante des diols. C'est une réaction d'oxydation très dure, il faut aller jusqu'à couper une liaison carbone-carbone très solide. On y arrive, et donc dans des conditions de performance extrêmement intéressantes. Oxyder des alcools, quel est l'intérêt d'aller oxyder des alcools? Quand on synthétise un certain nombre de médicaments, c'est une réaction qui revient souvent, et il faut le faire dans des conditions acceptables. Il n'y a pas beaucoup d'oxydants acceptables et éco-responsables. On a là quelque chose donc, de très performant qui aujourd'hui est le point de départ d'un projet qui nous permet de repenser complètement la synthèse de médicaments qui sont classés prioritaires en France. Pourquoi ? Ils sont tous produits en Asie et il y a un problème d'approvisionnement et de risque de pénurie en France. Donc on est en train de revisiter la synthèse en fait, de ces médicaments, avec une approche complètement différente, donc largement aussi performante, mais bien sûr avec des bénéfices écologiques associés. Pareil pour tout ce qui est halogénation oxydante qu'on arrive à faire, et surtout une nouveauté qui est propre à ces catalyseurs d'origine végétale, ce qu'on appelle la catalyse Janus. C'est-à-dire qu'au sein d'un catalyseur, on a deux propriétés différentes. Dans la chimie conventionnelle, il faudrait deux catalyseurs. Là, c'est deux propriétés au sein du même éco-catalyseur qui dérive en fait donc, de ces plantes. Ceci est extrêmement riche et nous permet d'enchaîner en cascade les réactions derrière les unes derrière les autres. Réaction d'oxydation et de carbonyl N-réaction dans la foulée. Pour ceux qui sont venus jeudi soir à la séance inaugurale, j'en ai beaucoup parlé, l'air de rien, réaction carbonyl N-réaction qui a permis de mettre sur le marché des agents répulsifs donc éco-garantis, naturels et très performants. Enchaîner de réactions d'oxydation, cyclisation, typique pour construire les médicaments dont je vous parlais. Et tout ceci donc, est réalisé, bien sûr, en accord avec la réglementation européenne donc, de la chimie, REACH. Et donc, la conclusion très claire, c'est de montrer que la démarche interdisciplinaire, qui a été initiée par la volonté d'étudier la restauration écologique sur des cas réels, a nourri quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, un nouveau programme de chimie qui s'appuie sur les piliers du développement durable. Grâce à quoi ? Grâce aux capacités de ces plantes accumulatrices de manganèse à générer de nouveaux outils pour une chimie qui a choisi de repenser et de revisiter ses principes de fonctionnement. C'est ce qu'on qualifie aujourd'hui d'économie symbiotique ou régénérative, où on montre qu'on peut concilier des efforts écologiques, ici de la restauration, avec une économie donc qui devient la force motrice des efforts écologiques. Voilà, donc j'arrive donc au terme de cette présentation. Je voulais quand même vous partager bien sûr quelques visages qui sont derrière ces travaux. Donc vous voyez une équipe résolument jeune d'ailleurs, donc qui est très engagée donc, dans cette volonté de participer à ces travaux interdisciplinaires entre l'écologie scientifique et la chimie durable. Merci beaucoup pour votre écoute.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.